Bonsoir à tous, bienvenue à ce café scientifique, croyance ou crédulité, la raison pose les plaques. On va être là une heure et demie ensemble pour discuter de ce thème avec nos deux intervenants et surtout avec vous. Assez rapidement, on va vous laisser la parole pour que ce soit vraiment une conversation entre nos intervenants ici et vous-même. Avant ça, on va rapidement les présenter, ces intervenants. Tout d'abord, on va excuser un absent, Xavier Alonso, qui devait être là, un journaliste parlementaire. Il est retenu malheureusement à Berne. On est en train de discuter du sort de l'armée. Alors voilà, sa fonction a fait qu'il n'a pas pu se libérer pour se joindre à nous, malheureusement. Nous avons tout de même deux intervenants à mes côtés. Fabrice Clément, tout d'abord. Comme le veut la tradition ici, je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques mots et nous laisser nous expliquer en quoi ce thème vous intéresse.
Donc, je ne savais pas qu'il y avait une tradition. Tout est neuf pour moi ici. Donc, en fait, pourquoi le thème m'intéresse ? Parce que c'est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis maintenant pas mal d'années, avec, comme on va assez rapidement s'en apercevoir dans les discussions, une perspective, disons, scientifique, dite naturaliste, c'est-à-dire de considérer les croyances comme, non pas des objets, comme une bouteille ou un verre, mais comme des choses qui peuvent être étudiées, et en particulier des choses qui ont une existence à la fois dans les cerveaux des gens et dans des systèmes de communication, dans des institutions, dans des livres, dans des choses qui sont extérieures et sociales, donc des contenus de croyances, et puis des mécanismes qui nous font plus facilement croire à un certain nombre de ces contenus.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, hein, Les mécanismes de la crédulité. Je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle ici, mais l'homo economicus rationnel qui prend des décisions au mieux pour lui, toujours, pour vous, ça n'existe pas, cet homme-là.
Disons, il peut exister dans certains types de contextes assez limités, je dirais. Mais dans la plupart du temps, ça ne marche pas. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller loin maintenant pour s'en apercevoir. Les événements récents dans la bourse, par exemple, l'indiquent assez bien. Et un des critères peut-être assez intéressant ou un symptôme assez intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement quelle est la situation encore à Neuchâtel, mais à HEC, donc la haute école d'économie lausannoise, il y a maintenant plus de psychologues expérimentaux qu'en faculté des sciences sociales et humaines où il y a l'Institut de psychologie. Donc il y a eu un renversement total, les économistes se sont dit non, on ne peut plus étudier les comportements économiques en se basant sur un modèle complètement abstrait de la rationalité humaine, il faut aller voir vraiment de près comment les gens réagissent à toutes sortes de stimulations, et en particulier des stimulations économiques.
Avec nous également ce soir, François-Xavier Amertz. Alors, François-Xavier Amertz, c'est plusieurs casquettes, hein. Qui on a aujourd'hui, le prêtre, le musicien, l'arbitre de football?
Est-ce qu'on ose parler de football à Neuchâtel?
Je ne sais pas.
Moi qui viens de Sion, donc c'est guère mieux. Hein. Sion et Xamax, c'est des causes presque aussi perdues que l'Église catholique romaine. Non. Alors, je dirais toutes les casquettes parce que prêtre, je le suis 24 heures sur 24. Arbitre, on verra dans le débat, mais c'est vrai que j'ai un tempérament plutôt de conciliateur, donc je me réjouis beaucoup d'échanger avec vous tous et puis avec Monsieur Fabrice Clément, dont je viens d'apprendre que j'avais été l'expert de maturité en philosophie. Donc c'est un remarquable philosophe, vous voyez à quoi mène la philosophie. Ça fait quelques années, mais... je suis donc prêtre du diocèse de Sion et j'enseigne depuis maintenant 4 ans la théologie pastorale, la pédagogie religieuse et l'homilétique. Alors, la théologie pastorale, c'est au fond comment annoncer aujourd'hui l'Évangile de manière à ce qu'il soit crédible et désirable. La pédagogie religieuse, c'est comment communiquer, quelle pédagogie déployer auprès des enfants, des jeunes, des adultes, de manière à ce qu'ils puissent établir une relation personnelle avec Dieu, parce que le thème m'intéresse dans le sens que la foi, c'est une relation, c'est pas une chose, c'est pas un objet, c'est vraiment une relation interpersonnelle. Et puis l'homilétique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'homilétique, ça fait bien d'avoir un terme un peu complexe, c'est l'art homélie de faire des prédications, de faire des homélies. Et la bonne prédication a trois qualités. Elle doit être brève, elle doit être courte et elle doit être pas longue. Vous voyez, ça, c'est les meilleures prédications, que ce soit à Neuchâtel ou que ce soit en Valais. Donc j'espère que mes interventions ce soir ne seront pas trop longues. Et je collabore beaucoup avec la faculté de théologie de Neuchâtel, Félix Moser et Lita Basset, puisque toute la théologie pratique pour, du côté protestant est rassemblée à Neuchâtel.
Avant d'ouvrir la discussion à nous tous ici, une petite question que j'aurais voulu poser à l'un et à l'autre, histoire de bien situer la discussion. Où se situe la frontière, pour vous, entre la croyance et la crédulité? Peut-être François-Xavier Amertz, tout d'abord.
La croyance, c'est une adhésion personnelle profonde qui donne sens à la vie, qui donne une orientation et qui conjugue l'exercice de la raison. Ça, j'aimerais dire d'entrée de jeu que pour moi, foi ne va pas sans raison. La foi dépasse la raison, mais mobilise la raison. Et donc, une croyance authentique a une certaine rationalité, a une certaine cohérence, peut rendre compte de son exercice, de son déploiement. Alors que la crédulité, j'y verrai une espèce de fascination non réfléchie, non approfondie et qui est justement dénuée de rationalité et qui peut amener à des dérapages si elle n'a pas un cadre aussi communautaire pour la réguler.
Fabrice Clément, vous êtes d'accord avec cette définition, cette nuance ?
Est-ce que je suis d'accord ? Je ne suis pas censé être d'accord ici, moi. C'est un débat. En fait, déjà dans le début de la réponse, l'accord immédiat qu'il y a eu entre vous deux sur la définition de croyance versus crédulité, vous êtes tout de suite rebondi en disant la croyance est une adhésion profonde. Mais on peut avoir une définition, et c'est la définition plus technique ou neutre, si on veut, de la croyance. Par exemple, si je crois qu'il va pleuvoir demain, c'est une utilisation tout à fait admissible, je pense, du terme de croyance, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que je crois à l'Eucharistie ou je crois en une relation personnelle à Dieu ou des choses comme ça. Et du coup, je serais moins pour dire il y a la croyance d'un côté, la crédulité de l'autre. Si on admet cette idée qu'une croyance est une représentation tenue pour vraie, simplement la définition minimale et technique, si vous voulez, c'est une certaine conception que vous avez du monde, une certaine représentation du monde, à laquelle vous attribuez une certaine valeur de vérité, sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour agir dans le futur, pour réfléchir, etc., sur laquelle vous allez compter, quoi, dans vos réflexions, par exemple. Et du coup, j'aurais un petit peu de peine à mettre la raison d'un côté et puis le côté complètement irrationnel de l'autre, puisque la plupart des gens qu'on a tendance à considérer comme crédules, en tout cas s'ils sont crédules dans la même chose et assez longtemps, ils ont plein de bonnes raisons. Encore l'autre soir, il y avait cette émission, peut-être certains l'ont vu à temps présent, sur les crop circles. Il y a eu ensuite une discussion où j'avais été un peu invité à participer et les choses sont parties un tout petit peu comme on pouvait s'y attendre. Vous avez des gens qui défendait bec et ongles l'existence des crop circles, mais ils ne la défendaient pas sur des arguments complètement irrationnels. Ils avaient toutes sortes d'éléments qu'ils présentaient sous un format qui ressemble beaucoup à un format scientifique, donc même pas forcément dans l'émission qui était moyenne, mais dans les débats qu'il y avait, vous pouvez les revoir, il y a, dans le blog du temps présent, il y a tous ces débats. Et il y a toute une série d'éléments qu'on ne peut pas, disons, qualifier d'immédiatement comme irrationnels. Donc je ne suis pas sûr que le mot-clé soit raison. Ou du moins, on peut développer, et là aussi la communauté peut jouer un rôle, toute une série de raisons, si vous voulez, au sens large et un peu flou du terme, d'être persuadé, par exemple, que quelqu'un qui est touché par des malheurs très fréquents, en fait, on lui veut du mal. Et c'est, dans un certain sens, irrationnel, si on se base sur la manière dont, je ne sais pas, les maladies arrivent aux gens par toutes sortes de causes physiques et de contacts, de relations avec des autres personnes qui transmettent ces maladies, mais ça peut former un système dans lequel les gens peuvent rester de longues périodes et justifier en amenant encore et encore des arguments. Et cette histoire des crop circles, par exemple, c'est impressionnant. Il y a des gens où les histoires de conspiration, vous avez peut-être tous entendu une fois ou l'autre, il y a quelqu'un sur un de ces blogs qui a je ne sais combien de signes qui développent tous les éléments très troublants qu'il y a eu lors du septembre 11, la chute des tours, le chiffre 11 qui est partout, etc. Et il a un effort d'argumentation considérable. Et donc la limite n'est pas toujours très, très facile à discriminer de ce point de vue-là.
Mais est-ce que vous faites une différence entre croire au crop circle? Si, il fonctionne. Croire au crop circle, aux extraterrestres, et croire en un dieu, croire en la religion. Est-ce que vous faites une nuance entre ces croyances, vous?
Oui, ça dépend, là, encore une fois, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Pour un croyant, hein, quelqu'un qui croit, si on laisse de côté les crop circles, mais qui croit non seulement dans l'existence, puis ça, on peut être agnostique sur ce sujet des extraterrestres, mais en leur intervention fréquente sur la planète, dans toutes sortes de situations, il faut rabibocher un petit peu ce qui est en train de se passer. Honnêtement, et sans vouloir blesser personne sur cette table, je ne suis pas sûr que, de son point de vue, il y a une différence très fondamentale. Si on pouvait scanner ce qui se passe du point de vue cérébral chez cette personne, et puis ce qui se passe du point de vue cérébral chez un croyant dans le fait qu'il est absolument essentiel d'aller tous les dimanches à l'église et de faire toute une série de rituels, etc., pour être sauvé, je ne suis pas sûr qu'on puisse marquer de cette façon une différence forte, disons. Mais je ne sais pas ce qu'en dirait le théologien. Quoi.
Ce sont les mêmes mécanismes, François-Xavier Amert, selon vous?
C'est clair que, d'une part, le fait qu'il y ait une trace dans le cerveau, une manifestation corporelle du mécanisme de la croyance ou de la crédulité, personnellement, me paraît intéressante parce que l'homme est un être à la fois corps, cœur, âme, esprit. Et donc, le fait qu'il y ait un mouvement d'adhésion, que ce soit de la croyance ou de la crédulité, qui vienne du cœur et de l'esprit et qui se traduise par une manifestation corporelle, me paraît tout à fait intéressant, et je serais heureux de vous entendre tout à l'heure peut-être développer cette dimension-là. Maintenant, une des grandes différences quand même, c'est que la croyance, là je prenais presque dans le sens de la foi en fait, hein, dans ma définition première, s'enracine dans une tradition, s'enracine autour de récits fondateurs. Vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, sauf erreur, des grands récits hein, qui constituent notre identité, s'enracine dans une communauté porteuse de sens. Alors que la crédulité, par exemple les crop circles, c'est quelque chose d'extrêmement récent, qui n'a pas une tradition, qui n'est pas organisé, qui a des rituels très, très faibles et qui ne peut pas bénéficier de ce support traditionnel qui donne une crédibilité à la foi par rapport à la crédulité.
Donc selon vous, plus une croyance est ancienne, plus elle rassemble de monde, plus elle est crédible?
Plus elle a pu faire ses preuves en quelque sorte, plus elle a pu montrer que ça tenait, que ça pouvait donner sens à l'existence, qu'il y a eu des gens dont le témoignage, parce que la foi au fond c'est par témoignage interposé, plus on a pu voir un certain nombre de témoignages que des gens, contrairement à la crédulité, ne s'égaraient pas totalement dans le sens de leur vie, mais pouvaient s'appuyer sur quelque chose qui donnait cohérence, qui donnait cohésion à leur existence. Alors que j'ai l'impression que la crédulité, ce que j'appelais tout à l'heure le dérapage, est incapable de donner une véritable signification, source de bonheur, source d'équilibre et source de sens global à la personne.
Là, si je peux juste rebondir. Là, il y a effectivement un élément intéressant, mais qui peut être interprété à nous, comme toujours, de deux façons. Plus en faveur, justement, de l'émergence d'une vérité avec un V majuscule, ou simplement d'un système qui, à un moment donné, se stabilise et se transmet bien ou mieux qu'un autre. Et je pense qu'effectivement, pour comprendre un des facteurs qui est intéressant, et que cette fois-ci renvoie à une dimension beaucoup plus sociologique que cognitive, au sens « qu'est-ce qui se passe dans la boîte crânienne ?» c'est qu'effectivement, les religions, les grandes religions, ont une longue histoire. Mais ce qui est fascinant, et ça vous connaissez beaucoup mieux que moi, ce qui est fascinant, c'est à quel point cette image a été faite de disputes, de débats, d'arguments, de critiques des uns et des autres, de révision du dogme, etc. Et d'une certaine façon, ça a bénéficié d'un effort intellectuel très très long et aussi de capacités rhétoriques souvent très très efficaces. Il y a une époque où j'avais fait du terrain à Bornéo et j'avais rencontré des missionnaires des top guns du missionnariat. C'était impressionnant. Et c'est des gens qui arrivaient dans un village, ils s'installaient au milieu avec les anciens et ils parlaient. Et ils avaient derrière eux 1000 ans d'histoire, de débat, de manière d'argumenter, de rhétorique, de ce que vous enseignez, j'ai oublié si c'était le pastoralisme ou l'homilétique. Et ça, c'est une force que vous avez, une force rhétorique, en tant que porteur d'une tradition, d'un enseignement très très long. Mais par contre, si on vous dit, on a dû vous le dire des milliers de fois, dans le fond, une religion, c'est une secte qui a réussi, je ne vois pas tellement ce que vous pouvez répondre, du point de vue, disons, rationnel, si je puis dire.
La différence fondamentale, c'est qu'une véritable religion, authentique religion par rapport à la secte, a un système de valeurs ouvert et non clos, qu'elle incorpore dans son processus le doute. La foi authentique passe par le doute, alors que la secte délimite un chemin que tous les adeptes doivent suivre. Et puis accepte le dialogue avec d'autres, alors que la secte est détentrice d'une vérité qui est absolue, et ou bien vous y adhérez et vous bénéficiez du salut, ou bien vous êtes expulsé. Donc je pense qu'il y a un ensemble de critères, à part le fait de l'exploitation financière, de la fascination du gourou, de l'exploitation sexuelle, etc. Mais au niveau sociologique, la définition d'une capacité, d'un système de valeurs ouvert, d'une disponibilité au dialogue interreligieux et puis de la prise en compte du doute et du débat, comme vous le disiez tout à l'heure, et de la disputatio qui caractérise la religion par rapport à la secte. Donc là, il me semble qu'il y a une différenciation au plan sociologique et au plan théologique tout à fait fondamentale. Reste que, bien sûr, toutes les religions, y compris le christianisme, et l'histoire l'a montré, peut dériver avec un système sectaire. Moi, je suis très, très frappé avec nos frères et sœurs intégristes, puisque Écône se trouve en Valais, combien il y a un fonctionnement absolument sectaire de la part de la fraternité Saint-Pie-X, au nom même des valeurs de l'Évangile, qui sont par nature antisectaires, dans une espèce de perversion du langage.
Alors on va poursuivre la discussion. Beaucoup de thèmes intéressants autour de ce sujet. On parlait du doute entre la raison, la crédulité. Il y a également l'aspect du récit sur lequel on peut revenir. Mais plutôt que d'orienter dans une direction ou une autre, moi je préférerais vous laisser assez rapidement tout de suite la parole pour voir quelles questions vous avez autour de ce sujet, quelles pistes vous intéressent. Alors je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. On peut y aller. On va vous amener un micro. Merci.
Merci. Il me semble que le dénominateur commun de toutes les croyances, les religions et tout, c'est l'anthropocentrisme. L'homme ne supporte pas de ne pas être un élément capital, final, de ce qu'on appelle la création. Mais c'est oublier complètement la notion de temps. Parce que l'être humain en tant que tel et qui se reconnaît en tant que tel, ça a 10 000 ans. La durée de présence de la Terre, j'entends présence au point de vue physique, ça n'a rien à voir avec une présence spirituelle, elle fait 4 milliards d'années. Et j'ai l'impression que tous ces mouvements, quels qu'ils soient, négligent complètement ce temps qui n'a aucune commune mesure l'un avec l'autre. Probablement que l'humanité va disparaître dans un certain laps de temps. Il serait téméraire de vouloir fixer une limite. Mais certainement, nous n'allons pas survivre. Il y a des bactéries qui nous survivront certainement. parce qu'elle change extrêmement peu. Et l'évolution de l'homme, c'est un phénomène extrêmement périlleux parce qu'on ne sait pas dans quelle direction est-ce que ça va. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement réservé concernant toutes les croyances et toutes les certitudes qu'on a. Voilà.
Selon vous, c'est faire preuve d'arrogance que d'avoir des croyances et des certitudes, c'est ça, si je résume rapidement votre propos.
Arrogance, c'est peut-être pas le bon mot. Prétention, c'est un peu plus doux, mais je n'irai pas si loin.
François-Xavier Hamet.
Merci beaucoup pour votre interpellation. Si je regarde le point de vue biblique, la prise en compte de la complexité infinie du cosmos est au cœur de la pensée biblique. L'homme est présenté comme une petite poussière au milieu des myriades de galaxies. On ne savait pas encore à l'époque qu'il y avait des milliards de galaxies. Et pourtant, vous avez des psaumes qui chantent la complexité infinie du cosmos. Donc, je ne parlerai pas d'anthropocentrisme. Du côté biblique, ce qui est au centre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et le cosmos est présenté comme faisant partie d'un projet qui est promis à un aboutissement. Je ne sais pas si le monde va survivre à l'homme, ça, on n'en a aucune preuve, aucune attestation. Ça, c'est une affirmation que vous avancez, mais qui n'est pas étayée scientifiquement. Toujours est-il que dans l'Écriture, on commence par le cosmos et on termine par des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Donc la prise en compte et du temps et de l'espace dans l'ensemble de la création est très 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 forte dans la Bible. Et l'homme n'est présenté que le centre de cette création qu'au titre de capable de pensée, de réflexion, d'amour, de relation, ce dont les autres créatures ne sont pas capables. L'homme a une place spécifique en tant que la personne humaine réussie par son langage, par son inventivité, par sa conscience, par sa capacité d'entrer en relation, à se distinguer de l'ensemble de toutes les autres créatures. Il n'y a que l'homme qui est capable de créer la Joconde, la chapelle Sixtine et les cathédrales. Avec Dieu, merci.
Oui. Donc, Dieu.
Dimension cosmique éminemment présente dans la perspective chrétienne en tout cas, et l'homme dans sa spécificité au service de cette création. Donc ce n'est pas un anthropocentrisme, l'homme est chargé de veiller à cette création. C'est pour ça que la Bible et que le christianisme est éminemment écologique et qu'on ne peut pas faire l'économie et du temps et de l'espace. Alors c'est pour ça que la même Genèse, qui parle de l'ensemble de la création, dit que l'homme, et c'est le seul être, est à l'image de Dieu. Ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il est à l'image de Dieu, affirme la Genèse. On peut ne pas être d'accord avec cette perspective, mais reste que voir un visage d'enfant, quand je rends visite à des parents qui ont leur premier enfant, le visage d'un enfant dépasse tout ce qu'on peut imaginer, dépasse toutes les splendeurs de la création, dépasse en complexité tout ce qu'on peut percevoir.
Attendez, on va vous donner un micro.
Dépasse pas Dieu, est à l'image de Dieu.
Est à l'image de Dieu.
C'est en tant qu'il est à l'image qu'il est capable de donner sens à cette création qui est comme un écran sein duquel l'homme se présente comme un bijou, si je puis dire.
Et pourquoi utiliser toujours cette notion de Dieu et pas avoir l'enfant directement? Pourquoi toujours Dieu?
Parce que la vie est reçue, parce que nous recevons la vie, parce que nous venons de quelque part, parce que la vie nous est donnée, parce que nous ne sommes pas créateurs de nous-mêmes, parce que nous sommes inscrits dans une succession et parce que le monde lui-même a une source, a une origine et est constamment et continue d'être créé. Le monde ne s'est pas fait lui-même. Le monde n'est pas que le fruit du hasard et de la nécessité. Quand on voit sa complexité absolument gigantesque, non, ça serait quand même très, 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 très étonnant que ça ne soit que le fruit du hasard et de la nécessité. Est-ce qu'il n'est pas plutôt le fruit d'une pensée créatrice qui lui a donné un sens, une orientation et qui va l'amener à son accomplissement?
Je vous propose qu'on recentre les discussions sur le thème qui sont les croyances, pas uniquement sur la religion, les croyances en général. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce qui s'est dit. Fabrice Clément, est-ce que la croyance vient de l'égocentrisme de l'homme pour vous?
Enfin, je suis vraiment tout à fait en ligne avec ce que vous venez de dire. J'allais presque dire forcément, c'est une perspective qui prend en compte ce qu'on sait de la nature, ce qu'on sait que la planète n'a pas toujours été comme elle était, qu'elle va disparaître un jour, etc. Par contre, sur la question, alors après, ce qui devient intéressant, c'est de dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à, alors je ne sais pas si on peut dire créer, mais à évoquer ces entités surnaturelles, pourquoi est-ce qu'on a hérité, créé, slash, tout ce que vous voulez, de ces récits extraordinaires, comme celui qu'on vient d'avoir, qui explique tout, qui montre qu'il y a un début, qu'il y a une fin, que ça tourne, et puis que tout ça va vers quelque chose, que ce n'est pas pour rien, etc. Et alors peut-être qu'il y a cette dimension, c'est assez insupportable, hein, effectivement, de s'imaginer qu'on est là, seul, abandonné. Là, les philosophes de l'absurde, effectivement, c'est désagréable, hein, ça crée des nausées, comme disait Sartre, de s'imaginer tout cela. Mais si on en reste à des mécanismes assez fondamentaux, en fait, il y a un des mécanismes avec lequel on est construit, si on veut, et qui renvoie au fonctionnement assez basique de notre cerveau. Notre cerveau, il est fait pour anticiper l'avenir. Il fonctionne comme ça. Même quand on marche, on anticipe l'état suivant dans lequel va se trouver l'environnement. C'est pour ça que quand vous croyez, si je puis dire, qu'il y a encore une marche quand vous descendez les escaliers de votre maison et puis qu'en fait, il n'y en a plus, vous avez l'impression de tomber. Parce qu'en fait, vous étiez déjà dans l'état suivant. Votre cerveau était déjà à l'état suivant. Et toujours, on essaye d'aller à l'état suivant. Ça, c'est pour le futur. Pour le passé, on a une propension, si on veut, à essayer de comprendre ce sens, de comprendre pourquoi les choses se suivent dans tel ordre. Et ça, c'est aussi un besoin de maîtriser un tout petit peu, d'essayer de comprendre le type de causalité qu'il y a autour de nous pour pouvoir, là encore, anticiper la fois prochaine. Si il nous arrivait tel pépin et puis qu'on a compris pourquoi il arrivait tel pépin, on aura moins de chances de tomber dans ce genre de problème. Et en fait, un des mécanismes très forts, alors que notamment Jeanne Favre-Sada, je fais un coup de pub qui va venir bientôt nous visiter là au Centre de sciences cognitives et aussi à l'Institut d'ethnologie, qui a beaucoup travaillé sur la sorcellerie. C'est une des choses qui, par exemple, est très très compliquée. On retrouve ça dans le crop circle, par exemple. Et vous venez de le dire, ce serait quand même surprenant qu'une telle complexité ait pu émerger par hasard. Et ça, il y a quelque chose que notre esprit nous interdit presque. On a beau être les plus critiques et les plus dubitatifs par rapport à tout ça, c'est très difficile à résister, par exemple, à voir des sortes de liens, des patterns de causaux entre les choses qui arrivent, notamment lorsqu'elles des choses nous arrivent, des choses négatives, des malheurs successifs. Et là, c'est presque automatique. Si vous ne voyez pas dans cette succession d'événements, de phénomènes qui conduisent à quelque chose de très positif, comme l'émerveillement qu'on peut avoir à la naissance d'un bébé, ou qui conduisent à quelque chose de très négatif, comme, je sais pas, toute votre famille qui se fait prendre dans un incendie, et puis après, vous, en sortant, chercher les pompiers, vous recevez encore une brique sur la tête, et puis vous tombez ensuite dans un trou d'égout, je ne sais quoi. C'est statistiquement tout à fait possible, mais il y a trop. À un moment donné, il y a trop. Et là, il y a un mécanisme fondamental qui entre en action dans des tas de situations, qui est de se dire, si ça arrive comme ça, c'est que quelqu'un l'a voulu. Et on retrouve de nouveau, alors ça devient une intentionnalité avec un grand I, parce que c'est plus quelqu'un de visible, ou alors c'est le voisin qui nous veut du mal, comme dans la sorcellerie, ou alors c'est une entité qui soit veut notre bien, et du coup on a mérité tout ça pour une raison ou pour une autre, soit nous teste. Hein. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez les croyants, et les croyants engagés, et qui m'impressionne et que j'envie un peu, c'est cette capacité à rebondir en disant « il m'arrive tout ça, mais c'est une épreuve. Si je la survis, je vais découvrir quelque chose d'autre, etc. etc. » Et là, c'est un mécanisme, c'est un récit qui, de ce point de vue-là, pour le bien-être en tout cas d'une partie de la population, n'est pas à critiquer d'emblée, même si on n'y croit pas forcément, il peut avoir des conséquences pas toujours négatives. Comme vous dites, il y a eu beaucoup quand même dans l'histoire de moments où les choses ont été un petit peu moins ouverte du point de vue des grandes religions, mais pourquoi pas, hein, dans un certain sens. Il n'y a pas d'argument définitif aujourd'hui pour dire que les gens qui croient sont mieux dans leur vie au quotidien que les gens qui ne croient pas. La plupart des recherches qui montrent ça sont menées dans le cadre d'institutions plutôt religieuses. Et inversement, les gens qui vont essayer de démontrer qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre l'adhésion à une foi quelconque et le bien-être, c'est souvent des institutions plutôt laïques. Donc c'est très difficile, en fait, à prouver ce genre de phénomène.
Ça dépend ce qu'on considère comme le bien-être. Ça dépend quels critères on retient.
Aussi, oui, tout à fait.
D'autres questions dans la salle, oui. Alors, on va peut-être quelqu'un avait une question derrière vous, sauf erreur. On revient plus tard, si ça vous va aussi. Merci.
J'espère que tout le monde quand a la parole. Quand je vous écoute, c'est un peu comme assister à un jeu d'échecs. Je sens jouer, trouver, répondre. Moi, effectivement, il y a un mot que j'ai envie de dire, et puis c'est un mot qui parle, qui touche, mais c'est pas jouer aux échecs, c'est la vie. La vie. Sans vouloir dire de quoi ça vient, c'est quelque chose que nous vivons, mais on s'en imprègne. Est-ce qu'on l'explique? C'est pas expliqué, je pense. C'est pas jouer avec. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est entendre les gens prendre position face à ça. Mais je garde toujours la vie, comme une toile de fond, comme une trame sur ce qui se passe. Voilà.
C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure que la vie est reçue, la vie est un cadeau, la vie est source d'émerveillement.
Vous jouez aux échecs, François-Xavier Amert.
Que la vie est reçue. Pourquoi c'est des échecs? Non, c'est un cadeau, c'est la gratuité, c'est le fait de s'en émerveiller. C'est ah, mais là vous lisez dans ma pensée. Dire que la vie est un cadeau, c'est précisément la déguster, c'est précisément en jouir, c'est précisément s'en émerveiller.
Autre question dans la salle? Allez-y. C'est intéressant l'aspect culturel, que ce soit au niveau des religions, au niveau géographique. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de croire en fonction des cultures, ou est-ce qu'on trouve des points communs un peu partout à travers le globe?
C'est une bonne question, parce que pour répondre à cette question, il faudrait justement être en mesure, comme disait en creux monsieur, de pouvoir se déprendre de sa propre culture. Et ce n'est pas forcément ce qui s'est passé avec les nombreux anthropologues qui ont été sur des terrains multiples à travers le monde et qui forcément sont venus avec leurs lunettes pour essayer de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Et du coup, il n'est pas simple du tout, comme vous le mentionnez incidemment, de rentrer dans la tête des gens et de se dire mais c'est comme ça qu'il croit à lui, ou c'est ça qu'il a en tête quand il pense à tel type de phénomène. Par contre, ce qui est sûr, alors, c'est indépendamment des récits que l'on a ici et qui nous ont imbibés depuis des siècles et des siècles avec les trois grandes religions, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène qu'on pourrait appeler socio-historique très particulier à notre aventure intellectuelle qui fait que on a été au fil du temps confronté à des croyances autres, exotiques, et que du coup, à de multiples occasions, et même à l'intérieur du christianisme, tous ces conflits qu'il y a eu à différentes époques, tous ces schismes qu'il y a eu, etc., les gens ont dû se positionner beaucoup plus par rapport à des credos que d'autres traditions ont dû le faire. Et ça a forcément un impact sur ce qu'on entend comme croyance, et comme on a débuté cette discussion, la différence entre croyance et crédulité, elle a un sens pour nous immédiatement, parce que croyance, c'est, ah oui, c'est vers la foi, et crédulité, c'est vers la bêtise. Mais c'est une dissociation qui est vraiment assez propre à notre manière d'envisager les choses, de ce point de vue-là, en tout cas. Alors après, les récits, par contre, c'est ça qui est passionnant d'un point de vue, je dirais, cognitif, c'est de se rendre compte à quel point les récits ont des similarités. Mais ça, on peut l'interpréter de deux façons, toujours. Soit votre façon, mais je ne vais pas vous piquer votre place, vous le ferez beaucoup mieux que moi, en disant... mais c'est ce que j'avais rencontré chez ces missionnaires de choc à Bornéo. Ils avaient, par exemple, mis un schéma où il y avait deux histoires bibliques. Comment est-ce que vous appelez ça? L'eschatologie.
L'eschatologie.
L'eschatologie. Donc il y avait
l'eschatologie
des Dogons. J'avais envie de dire ces pauvres Dogons qui avaient juste pas pris le bon rail à un moment donné. Et puis l'eschatologie, la bonne, si on veut. Et puis à un moment donné, ils avaient créé une sorte de rapprochement ferroviaire des deux situations en disant ça y est, maintenant vous avez juste dévié pendant un moment, mais regardez dans le fond. Et c'est ce que les catholiques ont beaucoup fait ça, ils ont fait ça aussi en Chine, ils se sont d'ailleurs fait reprocher pour certains. Ce que vous croyez, les rituels que vous avez, c'est la même chose que, et c'est la même chose que, c'est la même chose que, et l'interprétation c'est, vous n'avez juste pas eu à un moment donné le bon témoignage, mais vous étiez prêt à recevoir ce témoignage, la preuve, maintenant on vous le donne et vous êtes d'accord. Mais on peut prendre une optique différente et se dire qu'on est justement dans ces co-construction, ces constructions en commun de systèmes religieux, on a des contraintes cognitives, affectives et sociales qui font qu'il y a beaucoup plus de chances que ça prenne une certaine direction qu'une autre. Donc il y a vraiment beaucoup de chances qu'il y ait un récit fondateur qui nous dise comment c'est parti, comment les choses sont parties. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait un récit qui, à un moment donné, nous explique pourquoi il y a le malheur. Alors dans notre tradition, c'est il y a le péché, paf, originel, boum, et après on est mal barré, on tombe sur terre et les douleurs commencent. Et dans d'autres cultures, vous allez avoir un autre récit. Mais après, il faut essayer de comprendre comment se sauver, et là il y aura à chaque fois un récit. Mais les grandes étapes se ressemblent curieusement. Et encore une fois, elles peuvent se ressembler parce qu'elles sont toutes inspirées par une sorte de grand récit avec R, ou au contraire, parce qu'elles sont inspirées d'en bas par un ensemble de mécanismes et d'interactions qui vont faire que ce genre de récits ont beaucoup plus de chances de s'imposer.
C'est peut-être parce que l'homme est par nature religieux, l'homo religiosus, au sens religieux de relation, de religare, de relation avec soi-même, de relation avec les autres, et puis de relation justement avec une entité supérieure. S'il y a ces similitudes, à mon avis, c'est parce que l'homme par nature, et on le retrouve dans les différentes civilisations, est porté à tisser ces relations qui donnent sens à son existence parce que c'est sa texture fondamentale.
Absolument, là on est tout à fait d'accord.
Il y avait une question, je crois, au fond, sauf erreur. Non, monsieur? Oui, vous avez une question, oui. On va vous donner un micro, si vous passez une petite seconde. Voilà, on vous écoute.
Je trouve inadmissible la distinction de croyance en côté rationnel et crédulité en côté irrationnel. Je plaide que tous les deux sont tout à fait les mêmes, sauf que la croyance est ce qui en vous a une tradition qui est défendue par des machos qui on veut toujours avoir raison et exercer leur pouvoir sur nous. et utilisent la croyance comme outil pour s'imposer leur un narcissisme sur nous pour avoir la satisfaction du pouvoir. Et la crédibilité et la croyance que je me bâtis moi-même individuellement et qui est bien sûr pas bien vu par ceux qui veulent exercer leur pouvoir sur moi, parce que j'ose de prendre ma liberté d'avoir mon opinion à moi-même. Notre tradition de 10 000 années d'exercer le pouvoir masculin avec nos trois grandes religions, c'est tout juste la tradition de notre révolution masculine pour nous libérer de la dominance féminine qui a finalement contribué des centaines d'années au développement et au rebondissement de l'humanité de la vallée de l'Afrique orientale partout dans le monde et qui a beaucoup plus contribué à au développement de l'humanité que ces 10 000 années dernières qui nous ont seulement servi des guerres, des tueries, des techniques qui tuent, qui a des... la première fois que l'humanité fasse son extinction par soi-même. Alors, ça, les femmes ne sont pas servies. Alors, je pense qu'on devrait un peu reprendre notre machisme masculin et peut-être aller avec madame. Les femmes, ils ont toujours eu justement ce qu'on leur reproche, leur émotionnalité, qui leur donne un sens pour la vie et à prendre les décisions qui supportent la vie et qui ne font pas la guerre et les tueries. Et alors...
Oui, vous voulez réagir, François-Xavier Amert?
D'une part, si j'ai parlé de raison au début, c'est que souvent on oppose foi et raison, comme si la foi était une pure adhésion irrationnelle par opposition à une recherche raisonnable. Je voulais souligner dans ma première intervention combien la foi authentique mobilisait l'ensemble de nos capacités, c'est-à-dire l'émotion, c'est-à-dire la vie, comme vous venez de le dire, et c'est-à-dire aussi la raison. Deuxièmement, dans ce que vous avez dit, je crois que c'est la perversion de ce qu'est la foi authentique qui a pu amener à certaines époques effectivement l'utilisation de la foi au profit de l'exercice d'un pouvoir. Mais fondamentalement, par exemple dans la tradition de l'évangile, l'évangile est l'anti-pouvoir et le service par excellence. L'évangile est l'égalité de l'homme et de la femme et de l'homme par excellence. Donc lorsque dans l'histoire ça s'est traduit par des manifestations contraires, c'était la perversion de la signification profonde de l'évangile que nous essayons de redécouvrir aujourd'hui.
Une autre question dans la salle peut-être? Pas pour l'instant, on pourra y revenir plus tard. Moi j'aimerais revenir brièvement sur cette... Ah, il y avait une question là, pardon, je n'ai pas vu. Oui, excusez-moi.
Oui, en fait j'ai une question et c'est précisément pour cette raison que je suis venu ici pour cette question. J'ai toujours eu le sentiment, et c'est pour cette raison que je viens ici, j'ai envie d'en avoir le cœur net, j'ai toujours eu le sentiment que la communauté scientifique refusait systématiquement de poser la question de l'existence de Dieu d'un point de vue scientifique, et je la soupçonne sur ce point de ne pas poser la question d'un point de vue scientifique afin de ne pas froisser les croyants. Alors, est-ce que c'est vrai? Je voudrais bien le savoir.
Qui vous voulez entendre sur cette question en priorité?
Alors, un scientifique, hein, bien entendu, pas un théologien.
Si vous m'accordez ce statut prestigieux.
Je n'ai pas scientifique.
En fait, je ne crois pas qu'il faut y voir une paranoïa de la part des scientifiques. C'est juste que, par définition, le domaine divin est surnaturel. Donc, il obéit à des lois qui ne sont pas des lois qui peuvent être appréhendées par la démarche scientifique. Donc les types de causalités qui sont suspectées par les croyants, les manières d'agir de ces intentions, qu'elles soient de toutes les religions possibles imaginables, sur nos destins, etc., ne peuvent pas faire l'objet d'études scientifiques. Par contre, il y a eu des travaux, si vous voulez, qui ont été faits, mais je vais vous montrer que ça mène pas beaucoup plus loin, disons, l'apport de la science pour résoudre ces questions de faut-il croire ou pas en certaines entités surnaturelles. Il y a eu certains travaux, les plus intéressants et rigolos sont du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la neurothéologie. Vous avez un certain nombre de recherches qui ont été faites et qui ont montré que, par exemple, vous pouvez générer assez facilement une croyance dans un être surnaturel, au sens où la personne va ressentir la présence d'un être surnaturel si vous stimulez avec un appareil qui génère du magnétisme et qui donc... fait une sorte de court-circuit dans certaines parties de votre cerveau pariétal, génère une impression d'une présence, et très souvent les gens sortent de là et s'ils ont un récit culturel auquel s'accrocher, vont dire oui, pour moi c'était tel et tel saint ou c'était telle et telle personne qui est Dieu ou je ne sais qui est venu me rendre visite. Et d'autres ont essayé d'isoler les zones qui sont en activité lorsque des moines bouddhistes ou des sœurs religieuses sont en activité de méditation, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y a certaines zones qui se mettent en activité, etc. Mais la réponse...
Le pariétal.
Et le problème, si vous voulez, c'est que ces recherches amènent une partie des chercheurs qui sont des croyants, en particulier des croyants catholiques, d'Aquili, Weinberg et autres, à dire, regardez, le cerveau est préparé pour recevoir ce témoignage divin. Et je pense que M. Hammer serait tout à fait d'accord avec ça. Et par contre, les non-scientifiques vont dire, regardez, c'est bien la preuve qu'on peut générer de types de sensations qui sont décrites dans les traditions religieuses, en particulier les chapitres plus mystiques, qu'on peut générer ça de manière mécanique. Et donc, ça peut être généré dans d'autres situations, des rituels, des extases et autres, et donner naissance à certains types de récits très facilement. Donc, vous n'allez pas pouvoir... par ces études scientifiques, régler la question de l'existence de Dieu.
Justement. Je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, parce que, en ce qui concerne la question de l'existence de Dieu, on lui donne des caractéristiques. On dit qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il est composé de pure énergie, ou qu'il est immatériel. Et moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que les scientifiques ne peuvent pas répondre à cette question, parce qu'il y a des principes scientifiques qui permettent d'expliquer si une chose est possible ou non. En ce qui concerne l'omnipotence, je pense que la communauté scientifique est en mesure de répondre s'il est possible d'être invincible, intouchable, éternel ou pas. Et en ce qui concerne l'omniscience, le fait de tout savoir, d'avoir la connaissance absolue, c'est aussi, je pense, que la communauté scientifique, des physiciens, des biologistes ou autres, sont en mesure d'y répondre. Et également, pour ce qui est des physiciens, la composition de ce Dieu, parce que s'il existe, il y a quelque chose, une composition, un mécanisme, de quoi s'agit-il? Moi, je pense que la communauté scientifique est parfaitement en mesure de répondre à ce genre de questions, par des principes fondamentaux, au même titre que le fait qu'il ne soit pas possible de voyager dans le temps. Les scientifiques n'ont jamais mis au point une machine à voyager dans le temps, et pourtant ils disent que c'est impossible. Pour quelle raison? Pour la raison du principe de causalité. Pas de mouvement perpétuel possible. Pour quelle raison? Pour des principes de thermodynamique, etc. Donc je considère qu'à partir du moment où on dit qu'il y a une entité et qu'on lui donne des caractéristiques, je pense que la communauté scientifique est parfaitement en mesure d'y répondre. d'un point de vue scientifique.
François-Xavier Hamer, vous attendez que la communauté scientifique adoube l'existence de Dieu ?
Moi, je me réjouis beaucoup de l'humilité de plus en plus grande de la communauté scientifique, qui, plus elle avance, plus elle avoue qu'elle ne sait pas grand-chose et que la plupart des réalités lui échappent. Et comment voulez-vous saisir rationnellement, par un principe physique, ce qui par nature est infini, ce qui par nature dépasse la prise rationnelle? Votre attente est contradictoire dans les termes. Comment saisir par un principe fini ce qui est infini? Comment saisir par un principe naturel ce qui est surnaturel?
Essayez de rester cordiaux. On va... Pardon ?
C'est une question de définition.
Oui, je voulais juste... Je voulais juste peut-être dire un tout petit mot sur la prise ou l'absence de prise de la démarche scientifique sur la question de l'existence, de la non-existence de Dieu. C'est que, si vous voulez, Dieu est en dehors de ce qu'on appelle l'ontologie. C'est Dieu est hors de la matière. Hein, c'est-à-dire s'il existe, hein, bien entendu, en faisant l'hypothèse qu'il existe, Dieu doit être admis comme extra-matériel en dehors de la matière. Donc à partir du moment où il est en dehors de la matière, aucun phénomène naturel ne peut, disons, refléter son influence d'une manière matérielle, puisque il serait très étrange pour un scientifique de supposer que de l'immatériel cause des phénomènes matériels. Hein. Donc pour cette raison, bien entendu, la démarche scientifique ne peut pas, si vous voulez, considérer l'existence de Dieu comme un éventuel fait du monde, puisque de toute façon, par définition, ça n'est pas un fait du monde, hein, du monde matériel. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de propositions qui sont amenées par la foi, par la religion, à propos des propriétés qu'on attribue à Dieu. Hein. Et parmi celles-ci, vous avez, par exemple, effectivement, celle de l'omnipotence. Dieu peut tout. Et alors là, si on commence à réfléchir à la question de savoir ce que ça veut dire, on entre dans des disputations extraordinaires, mais disons que vous avez parfois la possibilité d'identifier des problèmes avec ces propositions-là. Alors ça, c'est une démarche que peut mener, par exemple, la philosophie, la logique. Et si on prend, par exemple, cette question de l'omnipotence, il est difficile, en fait, de tenir la proposition que quelque être que ce soit omnipotent. Et là, c'est peut-être une réponse partielle à votre proposition, à votre question, puisque, par exemple, disons, je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir dire, mais il faudrait revenir à Descartes qui a des réponses sur ces questions-là, bien sûr, mais ce que ça voudrait dire, par exemple, de se demander si Dieu est capable de créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même la soulever, par exemple. Et ce genre de contradiction pose des problèmes à la notion d'omnipotence en tant que telle, voyez. Donc, si on attribue une qualité d'omnipotence à Dieu, il va falloir, après, expliquer, et c'est la tâche des théologiens qui s'arrachent les cheveux avec ça, bien entendu, depuis le Moyen-Âge, comment on peut être omnipotent sans l'être à tout point de vue, hein, sans pouvoir l'être à tout point de vue, ou alors en admettant la solution souvent évoquée qui est l'existence d'un mystère, c'est-à-dire, à un moment donné, la rationalité doit s'arrêter et faire place, à ce moment-là, à une adhésion. Et alors que c'est de la crédulité, hein, à ce moment-là, au sens technique qui vient d'être évoqué, hein, c'est-à-dire, pour être croyant complètement, on doit admettre que Dieu est omnipotent, alors que l'omnipotence est impossible, selon, disons, la capacité intellectuelle humaine de la concevoir. Et donc, il y a des limites à notre logique, nous dira-t-on, et donc c'est le mystère. Et donc, quelque part, il y a quand même une capitulation à un moment donné, diront certains, ou au contraire, une inintelligibilité de l'autre. Ce qui pose, évidemment, des problèmes aux scientifiques, et là, effectivement, ça incite un certain nombre de scientifiques, de gens rationnels, à ne pas admettre, évidemment, l'existence de mystères de cette sorte-là. Hein, voilà. Donc, c'est juste une contribution.
Merci. Est-ce que l'un de vous devait réagir à cette contribution? Si ce n'est pas le cas...
Non, oui. c'est un développement de cette idée que je mentionnais, qu'effectivement, par définition, et je pense que là, les théologiens comment on appelle ça, de la négative. On sait, Dieu n'est ni ceci, ni cela. Et quand on discute avec des théologiens protestants, par exemple, moi, je suis toujours frappé que, à la fin, moi, j'ai toujours l'impression qu'ils sont athées, parce qu'ils croient à rien, mais vraiment à rien, puisque c'est chaque fois pas ça et pas ça et pas ça. À la fin, il y a vraiment, donc ils croient en un grand vide responsable de tout, mais qu'il n'y a plus rien, parce qu'on peut pas le définir par des mots.
Parce que Dieu, par nature, est au-delà de nos prises et au-delà de nos conceptions. Et...
Je propose que... disons que si on avait...
comment dire avec des mots celui qui est ineffable ? Comment dire avec des mots celui qui est ineffable ?
Je pense qu'on ne va pas réconcilier la science et la religion aujourd'hui. Je vais un petit peu recentrer, si vous permettez, les discussions, parce qu'on est vraiment sur la croyance, on va essayer d'être un peu plus large que Dieu peut-il être prouvé scientifiquement ou non. Si quelqu'un voulait poser une question, c'était...
Vous avez la remarque que vous êtes en train de faire.
Voilà.
J'avais l'impression qu'on, depuis une heure, on parlait de croyance, on essayait de savoir si monsieur avait raison ou pas.
Oui.
Au départ, on allait opposer dans le monde moderne la crédulité à la croyance.
Voilà.
Qui sont des concepts tellement intéressants. On sait qu'on est passablement manipulé. Je sais que certains n'aiment pas le mot, mais je crois qu'avec tous les médias, avec toutes les possibilités qu'on a, les pouvoirs qu'on a, occultes ou pas, on a aujourd'hui une population qui est relativement break-ballée entre croyance et crédulité. Et je pensais que c'était ça qu'on allait...
Alors, c'est justement pour ça que je voulais aussi recentrer un peu les discussions. Et peut-être parler un petit peu du récit, parce que c'est quelque chose que l'un et l'autre vous avez évoqué tout à l'heure, l'importance du récit. Et puis aujourd'hui, ce récit, on le retrouve pas seulement dans la mythologie ou dans la religion, on le retrouve aussi en politique. Barack Obama... a fait une campagne autour du storytelling, raconter une histoire. On a ça aussi en marketing. Je ne sais pas, certains produits informatiques à base de pommes le font très bien, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, raconter une histoire, c'est la base pour engendrer une croyance et peut-être manipuler, selon vous ?
Pas aujourd'hui, de tous les temps. Je pense que c'est la dimension narrative est fondamentale, mais encore une fois, pour des raisons de ce dont quoi un récit est constitué, puisque dans le fond, un récit, c'est une manière d'aligner sur une sorte de grande ligne temporelle des événements qui, comme l'avait montré Ricoeur, tout d'un coup perdent leur côté hasardeux et prennent une direction, parce qu'on va les aligner. Il est arrivé ça, puis ça, parce que ça, et celui-ci est venu, et il a fait ça, etc. Et tout du coup, quand on raconte un récit, si on n'a rien compris, c'est mauvais signe. On n'a pas compris pourquoi elle a fait ça, quelles étaient les raisons des raisons ou les bonnes mauvaises raisons des acteurs, pourquoi ils ont agi de telle façon, etc. Et puis, si on n'a pas réussi à connecter ces différents événements qui, sans le récit, apparaîtraient comme des sortes de points comme ça dans le temps, isolés les uns des autres, et qu'on n'arrive pas à refaire ce petit parcours, effectivement, on sera mal. Et là, l'avantage, si je puis dire, adaptatif au sens collectif de ces grands récits religieux, c'est qu'ils ont, ils ont cette qualité, si on peut appeler ça comme ça, donc qui est, comme on l'a dit et on l'a bien redit, qui est le fruit d'un long apprentissage, une longue tradition et un rabotage représentationnel, comme j'appelle ça des fois. Il y a des choses qu'on va laisser de côté parce que visiblement elles commencent à poser trop de problèmes aux gens. On va garder ça. Il faut quand même un peu de mystère, autrement ça va pas marcher. Enfin, c'est un équilibre très complexe en fait qui émerge au fil du temps. Et qui sont repris par des politiciens comme Obama. Enfin, son discours était très, 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 très christique, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y avait cette insistance sur le « nous », ensemble, le côté frère et sœur, on fait partie d'un même groupe, on fait partie d'une même famille. Enfin, c'est des trucs que, quand j'étais petit, j'entendais beaucoup à l'église. Les ennemis deviennent des frères et sœurs intégristes. Donc c'est vraiment un discours dont les églises se sont fait une spécialité. Et ça répond à une série de dispositions de notre esprit à considérer avec bienveillance un certain nombre de choses, y compris du point de vue émotionnel. Si on vous présente quelqu'un comme votre frère plutôt qu'un inconnu qui n'a pas grand-chose à voir avec vous, c'est clair que ça va avoir un certain impact. Et c'est pour ça que du point de vue scientifique, pour en revenir à cette... après, je pense qu'on va vraiment laisser de côté la religion, si on arrive. Du point de vue scientifique... Les grands récits qui ont tenu le coup si longtemps sont passionnants parce que justement par ce rabotage du temps, ce rabotage représentationnel, ils nous indiquent un peu comment notre esprit fonctionne. Et ils sont d'ailleurs utilisés très souvent et très habilement par des manipulateurs comme aujourd'hui la droite dure évangélique américaine, qui sont des experts d'Internet, qui sont des experts médiatiques par plein d'aspects et qui savent comment tourner les choses pour les rendre les plus efficaces possibles. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément un écart total. Je pense que la crédulité d'aujourd'hui, on va retrouver ce que vous avez envie d'appeler manipulation et autres, on va retrouver une partie des phénomènes qu'on a retrouvés à d'autres moments dans l'émergence de nouveaux courants religieux ou dans la stabilisation d'églises, etc. Donc on va retrouver le même genre de mécanisme.
Il y a une question là, juste avant, je voudrais vous entendre, François-Xavier Amert, sur cette question. Est-ce que vous remarquez, vous, dans la... que ce soit en politique ou dans le marketing ou dans des choses très modernes, est-ce que vous remarquez des structures, des discours qui peuvent s'apparenter à des discours religieux, des techniques alors, je ne vais pas parler de manipulation dans le sens religieux, chacun, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais est-ce que vous remarquez des mêmes techniques qu'on peut retrouver à l'Église, des choses qui se font en politique ou dans le commerce aujourd'hui
Certainement dans l'essai de créer un groupe uni, une cohésion, une famille, ce concept dans certains partis politiques, ça me frappe combien puisqu'il y a eu au mois de septembre quasiment tous les congrès des différents partis, on veut former une grande famille. Il y a l'université d'été des socialistes et puis de l'UMP en France, malgré les différents candidats socialistes, on veut former une grande famille. Donc cette dimension de communion, de cohésion autour d'un projet, autour d'une perspective de société, certainement qu'il y a une espèce de filiation dans ce type de discours par rapport à ceux qui proviennent du discours ecclésial.
Oui, Monsieur Clément, est-ce que vous étudiez aussi les textes des journalistes? Parce qu'il me semble qu'en ce moment, les gens qui utilisent le récit pour essayer de convaincre, c'est beaucoup les journalistes, peut-être même plus que les grands textes bibliques.
Oui, alors pas forcément systématiquement, personnellement, mais c'est vrai que notre centre de recherche en sciences cognitives et les sciences d'information et de la communication ont pour un des objectifs d'essayer de mieux comprendre ces discours médiatiques. Alors c'est compliqué dans le sens où vous avez une dimension où en même temps, si vous formez les gens c'est ce que vous faites d'une certaine façon quand vous faites votre homélie. J'ai de nouveau oublié.
L'homilétique.
Vous donnez les bons trucs marketing dans un certain contexte. Et si vous allez former, là, on forme des gens qui vont se spécialiser ensuite en communication ou en journalisme ou dans la recherche. Et ils pourront aussi bien utiliser ces mécanismes que les dénoncer. Donc il y a là une dimension morale, je pense, qui doit intervenir. Mais effectivement, il y a aussi des modes, hein, alors les journalistes connaissent ça mieux que personne, mais il y a la mode, par exemple, de la personnification qui est vraiment très forte et qui, pour certains sociologues, indique des choses profondes sur notre fonctionnement social d'aujourd'hui, où il faut que toutes les informations soient indexées sur une personne que vous pouvez vous représenter, qui est en face de vous, etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis, où presque tous les articles commencent par une sorte de petite anecdote, où je ne sais pas, il y a une catastrophe, genre le 11 septembre, puisque on en parle, tout le monde en parle. Et puis vous avez l'histoire de Ferdinand rentrer chez lui, il allait revoir sa femme, etc. Et boum, etc. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est cette petite touche qui fait que vous allez vous sentir concerné, vous allez rentrer, mais pas trop. Parce qu'autrement, franchement, si vous étiez trop concerné par toutes les nouvelles, on serait tous en train d'être soignés pour dépression intense. Mais il y a des trucs, et là encore, les mécanismes sont malheureusement un peu trop basiques. Et ça, je pense que du point de vue, alors là, je ne sais pas ce que nous, on peut faire en tant que formateurs, mais les journalistes, du point de vue normatif, au sens de ce qu'ils doivent ou devraient faire, jouent un rôle dans la démocratie absolument fondamentale. Et je ne sais pas, collectivement, on devrait par exemple décider ici, ça ferait déjà un début, de boycotter complètement le journal gratuit 20 minutes. C'est un journal qui, on a des gens qui travaillent dans, pas chez nous, de d'autres universités, qui travaillent pour gagner de l'argent dans des comités de rédaction ou qui sont journalistes dans ce genre de journaux, et où en fait,
ils doivent fournir certains types d'informations. Et si l'information ne correspond pas au cadre, si elle n'a pas un peu de nudité, pour être simple, ou de violence, etc., elle ne passera simplement pas. Parce que ça renvoie à des ressorts. On ne peut pas ne pas regarder, on ne peut pas ne pas faire attention à ce genre de phénomène en tant qu'être humain, en tant que, parce qu'on est constitué comme ça biologiquement. Il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas prêter garde. Et une fois qu'on a trouvé la recette, on peut la resservir à toutes les sauces. Et on perd une dimension essentielle du journalisme dans nos sociétés, qui a été très bien démontrée par des philosophes comme Habermas ou d'autres, qui sont de former l'opinion publique et de dire des choses qui ne font pas forcément plaisir ou qui ne sont pas forcément dégoûtantes, mais qui nous renseignent sur ce qui est en train de se passer. Et ça, je pense que pour les journalistes qui sont parmi vous, enfin pour moi, vous avez une importance absolument cruciale dans la manière dont le monde va tourner, plus que la religion, à mon avis. Bon, c'est un truc.
L'un n'empêche pas l'autre.
Est-ce que dans la salle, il y a encore une question ? Ici, oui, monsieur.
Bon, je suis un scientifique, mais terre à terre. Je pense qu'en fait, que la croyance termine, la crédulité commence quand la croyance termine. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de croyance, mais il faut quelque chose. Donc, on passe à la crédulité.
C'est une définition qui vous convient, François-Xavier Amert ?
J'insisterai sur le fait que, oui, la crédulité au sens d'un abandon qui n'a plus de raison à quoi s'accrocher. Ce que vous dites, c'est que la croyance a une cohésion et au moment où la croyance finit, on doit... Ouais. J'hésite à dire oui parce que tout à l'heure on employait le mot mystère, monsieur employait le mot mystère. Pour moi, le mystère, c'est pas de la crédulité. C'est-à-dire le fait d'aller au bout de ce que la raison peut déployer et après de faire un saut dans ce qui dépasse justement la prise rationnelle. Et l'abandon au mystère, ça, ce n'est pas de la crédulité.
Tout à l'heure, vous nous disiez que des gens sur lesquels le sort s'acharnait, qui recevaient plusieurs mauvaises nouvelles, plusieurs catastrophes sur eux, devenaient des gens un peu plus réceptifs, disons, à certains types de manipulations. Est-ce que vous, François-Xavier Amert, vous remarquez ça dans votre pratique, le fait que des gens fragilisés sont plus ouverts à certains types de discours, notamment, par exemple, au discours religieux. Est-ce que quelqu'un de fragile est plus facilement, plus à l'écoute, peut-être, selon vous, peut-être plus facilement manipulé, selon vous ? Je ne veux pas choisir le mot à votre place.
Si c'était le cas, ça serait tragique, parce que ça serait précisément de la manipulation et plus de la proposition de la foi, parce que fondamentalement, une adhésion authentique de foi est basée sur la liberté. Donc si c'est à partir d'une fragilité qu'il y a une proposition d'un récit, qu'il y a une proposition de sens, ça risque de tomber dans la manipulation. Une foi authentique met l'autre debout, donc elle s'adresse autant à des gens qui ont déjà une certaine orientation dans leur vie qu'à ceux qui subissent des épreuves, qu'à ceux qui sont déboussolés. Donc je me garderais bien de faire de la religion une espèce d'opium des faibles, hein, que ça serait pour les faibles, les femmes, les enfants et les petits. C'est souvent la conception qu'on a, hein, c'est croire c'est pour les faibles, alors que celui qui... J'ai eu un débat absolument décoiffant avec André Comte-Sponville, et l'esprit de l'athéisme, que vous connaissez certainement, qui a écrit l'esprit de l'athéisme, c'est une intelligence extrêmement brillante, mais ce qui m'a frappé quand même, c'est cette espèce d'orgueil absolu du philosophe et de l'intelligence, disant nous avons une aspiration à croire en un être supérieur, à croire en un être surnaturel, et cette aspiration est tellement forte que si on y adhère, c'est soupçonnable parce qu'elle est tellement forte. Et mieux vaut, pour montrer la supériorité de l'intelligence, ne pas y adhérer au nom d'un orgueil de la raison. Alors, je répondais à votre question en disant non, c'est pas spécialement pour des gens plus faibles ou plus fragiles que la foi est proposée.
Question. Oui, monsieur.
Quand Fabrice Clément a parlé, c'est vrai, j'ai aussi pensé au mot manipulation. Donc la croyance nous aide, je pense aussi, à ne pas se laisser manipuler. Moi, j'ai rejeté la foi et je l'ai retrouvée à travers des outils, des talents incroyables qu'il y a en chacun de nous, de discernement et surtout de sentir est-ce que c'est bon et pas bon. Moi, je pense que la relation est très importante. On dit aujourd'hui dans la société, le problème numéro un, c'est la solitude. Donc, la réponse, c'est la relation, la qualité de la relation. Alors, je suis souvent très surpris là. Moi, j'aime beaucoup le chat. On a une fille, elle a reçu un petit chat noir-blanc. Donc, si vous mettez le chat ici sur l'affiche, il est évident que vous parlez aussi de l'occultisme. On n'a pas encore parlé de l'occultisme. Donc, comme j'ai dit, la foi passée sur une religion ou bien sur une personne dans la croyance du chrétien, sur une personne Jésus-Christ. Donc, il y a relation, il est évident. Mais par rapport à la crédulité, là, je pense qu'il y a quand même ce ratio, ce doute, cette mise en question qui n'est pas là. Pourtant, on peut observer dans notre société, une fois à la poste, il y a des livres qui sont vendus par des dizaines de milliers d'exemplaires, où on peut trouver des adresses, des faiseurs de secrets, des gens qui cherchent de l'eau. Donc je suis souvent surpris des personnes, des amis qui refusent la foi, et en même temps, ils vont, on peut dire, chez n'importe qui. Mais j'espère qu'ils ont un reste de discernement pour sentir est-ce que ce que je fais, est-ce que ça augmente la qualité de ma vie et justement cette relation, cette soif en moi qui cherche à sortir d'une certaine façon d'une solitude. Par rapport à cette... Bon, je vous laisse formuler la question. Je m'excuse, j'ai été un peu long là.
Si je peux commencer peut-être. Oui. Je pense qu'il y a une chose où on est... peut-être la chose où on est le plus en accord avec M. Amert, c'est cette idée qu'effectivement la relation à l'autre est dans notre fonctionnement et notre bien-être quotidien essentiel. Et ça a quelque chose qui a été longtemps sous-estimé par les gens des sciences cognitives, qui étaient un peu trop centrés sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Mais c'est des choses qui sont en train de changer. Il y a des très jolis livres, d'ailleurs, qui sont sortis récemment et qui montrent qu'effectivement, les conséquences physiologiques de l'isolement social, par exemple, sont énormes. Sont considérables. Alors après, le type de relation que tous ces scientifiques, qui se sont penchés sur la question en tête, c'est la relation à l'autre, mais avec un A majuscule, et aux autres avec des A minuscules. L'idée qu'il faudrait insérer un autre avec un A majuscule pour assurer une sorte de bien-être à la fois personnel et collectif, là, je veux dire, je vois pas d'argument définitif pour invoquer la nécessité d'une telle croyance. Je pense qu'il y a eu dans beaucoup de religions, et encore, c'est encore le cas pour beaucoup de gens, dans le fond, pas tellement de nécessité pour les membres, même du point de vue des autorités, de croire entièrement, d'être complètement dans la foi. Je pense que la croyance minimale qui a longtemps été nécessaire, c'est de croire dans le bien-être de croire. Ça suffit. Si vous croyez qu'il est nécessaire d'avoir des institutions religieuses, d'avoir au moins des pratiques religieuses, de croire qu'il existe quelque chose, etc., sans rentrer dans les détails, pour beaucoup de gens, et je pense pour beaucoup d'institutions, ça suffit amplement. Par contre, on peut peut-être transformer en étant laïque jusqu'au bout, en disant que cette nécessité de la relation, de la religion, d'en faire une religion purement... horizontale, si vous voulez, et non pas verticale. Et ça, c'est un pari plutôt philosophique, politique, de se dire on peut arriver à créer ça
ici, à l'horizontale, sur cette planète, sans invoquer d'autres entités, disons, qui seraient responsables de cet ordre. Mais d'autres pensent que, même des non-croyants, pensent qu'il est nécessaire d'invoquer un tiers, quoi, pour assurer cet ordre ici-bas. Notamment parce qu'il faut assurer que les gens suivent plus ou moins les conventions, fonctionnent plus ou moins en commun, trichent pas trop, etc., etc. Et là, c'est un grand débat, mais qui est plus un débat philosophique. Et puis là, alors après, on a des croyances, je pense, l'un et l'autre. On aurait des envies qui sont des envies plutôt politiques, dans un certain sens, de se dire, il est nécessaire, par exemple, on en parlait un peu au début, d'enseigner la religion au sens, la religion chrétienne dans les écoles, par exemple, parce que c'est justement nécessaire au bon fonctionnement des individus et du monde social. Et puis on peut se dire, dans une perspective plus, je ne sais pas, socialiste, mais le terme, disons, des origines, de se dire, on peut essayer de créer ça à l'horizontale, en se disant, c'est fondamental, la relation est cruciale, il faut assurer politiquement, institutionnellement, que les gens ne soient pas isolés, qu'ils interagissent les uns avec les autres de manière plus ou moins correcte, etc. Et là, ça devient une vraie question politique et scientifique, quoi, d'une certaine façon.
Mais si une institution religieuse n'a de souci que de faire en sorte qu'il y ait ce minimum dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire peu importe au fond l'adhésion du cœur, pourvu qu'on croit qu'il y a quelque chose et puis que ça légitime l'existence de cette institution, si cette institution fonctionne comme celle-là, elle est creuse. Elle est creuse. Hein.
Mais pourquoi pas ? Enfin, une roue est creuse, elle marche très bien, elle roule très bien. Enfin, l'intérieur, il est creux. Enfin, c'est...
Mais ce que je veux dire, c'est que la roue tourne.
Je m'excuse, j'ai fait de l'homélique appliquée.
L'homilétique. Le but, c'est que cette relation soit vitale, cette relation crée du sens, cette relation à soi-même, à l'autre, dont l'autre avec A majuscule et en quelque sorte le garant, soit source de vie et non pas simplement caution d'un fonctionnement creux d'une institution qui tourne. On est en train d'ailleurs d'en payer les pots cassés du point de vue de l'institution chrétienne parce que comme vous avez dit monsieur, c'est vrai qu'il y a eu pendant des siècles des abus de pouvoir et donc c'est l'institution qui est rejetée mais on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que l'essentiel c'est cette relation d'amour. C'est ce à quoi sert l'institution.
Juste pour continuer sur l'autre aspect, parce qu'il y a des gens qui en ont marre d'entendre parler de religion, et je peux les comprendre. L'autre aspect qui renvoie...
Fallait pas m'inviter.
qui renvoie au secret, au truc de tous ordres qui soulage ou non la vie des gens. Là, je pense qu'on rentre alors dans quelque chose de... Aussi, je ne veux pas dire que ce qu'on a discuté déjà maintenant n'était pas du tout intéressant, hein, loin de là, mais d'aussi très passionnant. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs postures par rapport à ce genre de pratique. Hein. Par exemple, une posture, comme vous l'avez mentionné, qui est de dire mais comment peut-on admettre ce genre de choses, soit qu'on soit scientifique, rationnel, contre toute croyance au sens religieux du terme, soit qu'on soit croyant. Dans les deux cas, ce genre de pratique doit être condamné. D'une certaine façon, parce qu'elles répondent à aucun des normes de l'un côté ou de l'autre. Et en même temps, quand vous y allez voir de plus près, vous vous rendez compte que, un, ça aide souvent les gens, je ne parle pas des trucs démoniaques et autres, mais les secrets, par exemple, alors il y a des raisons qui sont encore mal connues, scientifiques vraisemblablement, pour lesquelles ça marche, hein, c'est pas la question de l'efficacité mystérieuse, il y a une efficacité réelle d'un certain nombre de pratiques, et une efficacité, on en parlait tout à l'heure, dans des pratiques concrètes et des pratiques qui sont souvent liées à du malheur. Des pratiques qui, tout d'un coup, font que les gens vont aller mieux. Pourquoi condamnerait-on aussi, disons, effrontément, un certain nombre de pratiques qui, par ailleurs, ne recourent pas, ne font pas de mal à autrui, ne tuent pas des chats pour les clouer sur une porte d'église ou je ne sais quoi, mais comme la plupart des médecins ou des infirmières, dans la plupart des hôpitaux extrêmement scientifiques aujourd'hui, ont simplement dans leur poche un numéro qu'ils appellent ou qu'ils font appeler par leur infirmière ou qu'ils font donner par leur infirmière aux patients qui souffrent de brûlures,
qu'ils appellent ce numéro et qu'ils se sentent mieux. Moi, je serais alors, comme je serais tolérant par rapport aux croyances religieuses, si elles vous font du bien, tant mieux. Je pense qu'il serait aussi un tout petit peu, disons, fort de cuillère de condamner un certain nombre de pratiques qui ont une efficacité, ça peut être c'est probablement du placebo, mais elles ont une efficacité et elles font du bien. Donc là, ça serait une sorte de prétention, je trouve, très fort du scientifique ou de l'homme d'église. Mais je sais que chez l'homme d'église, c'est un sujet compliqué parce que vous avez des curés qui ont des secrets, qui ont reçu un don, etc. Donc, et l'église officielle a toujours été très, disons, prudente, disons, par rapport à ça, comme par rapport au miracle, d'ailleurs. Mmh. Mais pourquoi on pourrait se permettre, de quel point de vue
condamner ? On juge l'arbre à ses fruits. Si le fruit est bon et s'il n'y a pas de manipulation financière ou spirituelle.
Alors, je ne sais pas ce que serait que manipulation spirituelle, mais... Si c'est du placebo, c'est bien spirituel dans un certain sens.
Madame attend depuis un petit moment une question.
Alors, le souvenir que j'ai, j'étais au gymnase. Puis il y avait un endroit, on n'osait pas aller s'asseoir. Monsieur Clémenceau sera peut-être là pour m'éclairer. C'était à côté, sous le pain. Et pour moi, après, en recherchant, c'était lié à quelque chose de nucléaire, c'était pas ça. Il y avait cet endroit où on n'osait pas aller s'asseoir. Puis après, c'est pas ça. Ah, mais je me rappelle de l'endroit où on... Bon, alors, je me trompe. Mais après, il y a eu l'horloge nucléaire. Après Neuchâtel, on m'a dit que c'était réputé pour les énergies renouvelables. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, blabla, les secrets. J'ai connu un oncle qui faisait le secret. Ça marchait pour les vaches, puis alors après, ça a marché pour les êtres humains. Très bien, tout ça. C'est du blabla. Laboratoire de recherche, je suis pour laboratoire de recherche. Ah, ce serait chouette. Pour tout ce qu'on a dit. La recherche concrète.
Voilà. Une autre question dans la salle. Une question. On arrive gentiment au terme. Il nous reste encore quelques minutes. Oui, il y a une question là. Oui.
C'est juste pour... enchaîné sur une remarque qu'avait fait Fabrice Clément tout au début à propos de la rationalité en disant il n'y a qu'à regarder la façon dont les marchés se comportent pour voir à quel point finalement les comportements irrationnels sont répandus. Et je voulais savoir si tu avais, si tu pouvais un peu élaborer là-dessus, parce que moi il me semble que certaines attitudes dans les marchés sont complètement rationnelles. Et qu'en fait, elles ont trait surtout au caractère déficient des informations. C'est-à-dire que, par exemple, si on a de bonnes indications, par exemple des inside information, c'est pas, que tel pays ne fera pas faillite, je ne sais pas, la France, mettons, on n'a aucune raison de vendre des titres de la dette française. Mais si, par ailleurs, je sais qu'une grande majorité de gens pensent le contraire, ma foi, je vais vendre mes titres. Et c'est parfaitement rationnel. Donc je vais précipiter la France dans le chaos, n'est-ce pas, d'une manière complètement indépendante des faits objectifs, mais parfaitement rationnelle. Donc il y a l'irrationalité des marchés, on en parle énormément, mais en réalité, elle est très liée à une rationalité d'anticipation sur ce que les autres font. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose à voir là-dedans.
Oui, alors, il y a... La première remarque sur ces questions de rationalité renvoyait à cette opposition qu'on avait d'emblée posée, qui nous a habité ensuite dans toute la discussion, entre croyance avec grand C, raison avec grand R et crédulité. Et il peut y avoir, c'est là où ça devient un autre terme qu'on a peu interrogé, c'est celui de raison. Tu peux avoir un mécanisme qui, en un sens, est rationnel, mais qui n'est pas intelligent du tout, au sens où il ne va pas être adaptatif dans telle situation, comme quand les marchés avaient rationnellement, par exemple, développé des logiciels de vente pour très rationnellement réagir très vite au phénomène, comme tous ces logiciels fonctionnent plus ou moins de la même manière, eh bien, ça crée des catastrophes puisqu'ils vont réagir au même genre d'informations, ils vont vendre et tous vendre et tous finalement perdre. Donc il y a des moments où justement ce concept de rationalité pris au sens strict, presque mécanique du terme, peut avoir des conséquences très irrationnelles. Et inversement, il peut y avoir des réactions émotionnelles, les réactions émotionnelles, souvent, on les prend comme parangons de choses qui vont tourner de travers, mais qui peuvent, au contraire, être très adaptatives et intelligentes. Et on en a tout le temps, on en a eu toute la soirée. Par exemple, toutes les informations, lorsque je vous parlais, que j'essayais de décrypter sur votre visage, qui étaient des signes d'approbation ou des signes comme ça, etc., m'ont donné beaucoup d'informations sur la manière dont je devais continuer à parler ou arrêter ou développer un petit peu. Et ça, je n'arriverai pas rationnellement à l'exposer tel quel. C'est des informations qui sont traitées émotionnellement et qui sont très intelligentes, très rationnelles dans un autre sens.
On arrive au terme de cette discussion. François-Xavier Amert, un dernier mot par rapport à ce qu'il
vient de
se dire.
Par rapport à ce que vient de dire Fabrice, l'importance d'être à l'écoute de ses intuitions profondes. J'aime beaucoup ce que vous disiez. Au fond, chacun de nous, je crois profondément, a au fond de lui cette capacité, s'il est à l'écoute de ses intuitions profondes et de sa conscience, de s'adapter à la situation et de donner intelligence à ses décisions rationnelles et d'opérer ce discernement dont parlait Michel tout à l'heure.
Là, après, c'est un tout petit peu sur la source de ces intuitions. Là, on aura, je pense, un désaccord, plus ou moins. C'est que dans les traditions religieuses, en tout cas dans les traditions chrétiennes, il y a justement quelque chose, vous l'avez dit à un moment donné, il y a trois dimensions. Une de ces dimensions, c'est l'âme. Et donc, il y a cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un moteur spirituel avec lequel on naît et puis qui peut s'épanouir ou qui peut se dégonfler, je ne sais pas comment, quelle métaphore il faut prendre, comme un ballon avec l'air céleste ou je ne sais quoi, spirituel, etc. Et pour une approche très basique, terre à terre, comme vous dites, matérialiste, il n'y a pas vraiment ça, quoi. On a des quantités d'activation neuronale, il y a des choses des événements neuronaux qui émergent, il y a des choses hormonales qui s'associent à ça, il y a toutes sortes de transmetteurs, etc. Et en essayant de comprendre tout ça, on se situe dans un seul univers où il n'y a pas plusieurs types d'entités, comme on le disait tout à l'heure, une entité qui serait hors des lois naturelles. On essaye, c'est un pari, qu'une foi, certains parlent de foi scientifique, c'est un pari de se dire, tiens, restons dans les cadres de cette ontologie et essayons de comprendre tous ces phénomènes, y compris les phénomènes religieux.
Mais avec ce type d'approche, vous ne saisirez jamais ce qui fait que vous êtes une personne, que vous êtes une personne libre et une personne capable d'aimer. Vous ne saisirez jamais, par exemple, le phénomène de l'amour, que personnellement, je compare. Le fait, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous aimez telle et telle personne. Vous pouvez en voir peut-être certaines manifestations neuronales ou corporelles, mais...
Pas seulement, non, je pense qu'il y a toute une série de...
On va conclure.
Oui, il y a tout... Oui, absolument. Alors, c'est le Centre de sciences cognitives qui démarre et dont une conférence inaugurale aura lieu il y a mes collègues qui se marrent, je fais tout le temps de la pub, aura lieu en janvier avec un très très grand philosophe qui s'est beaucoup battu contre le totalitarisme religieux, qui s'appelle Daniel Dennett, qui est très connu par les mondes religieux maintenant, parce qu'il a justement, avec Dawkins, lutté contre l'homogénéisation qui faisait que les étudiants américains n'osaient pas dire qu'ils n'étaient pas croyants sur les campus. Comme ils n'osaient pas dire ceux qui étaient homosexuels, il y a eu un combat similaire avec la religion, tellement la religion allait de soi et la croyance allait de soi aux États-Unis. C'est lancé dans un grand combat. Alors je vous invite à venir l'écouter le 12 janvier à l'Université de Neuchâtel.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été présents ce soir, merci de votre participation, merci aussi François-Xavier Amert et Fabrice Clément d'avoir été avec nous autour de ces discussions.
Merci à vous aussi.
Merci.
Bonsoir, juste avant que vous partiez, je voudrais vous annoncer que le prochain Café Scientifique aura lieu le 19 octobre. Et vous êtes tous bienvenus ici, même heure, même adresse. Et on parlera justement des journalistes et du journalisme en particulier, de la circulation de l'information et notamment la place du citoyen journaliste. Ce sera intitulé « Tous journalistes, tous photographes, tous écrivains ». Donc je vous invite d'ores et déjà au 19 octobre. Merci de votre attention. Bonne soirée.